Mind the gap. Mind the gap. Mind
the game. Mind the game. Game. Game.
Salut à toutes et à tous, Mind the Game, c'est votre podcast mensuel où une ou un invité vient parler de son rapport à un jeu vidéo sous tous les angles. Affectifs, anecdotes originales, game design et autres croisements avec la pop culture seront au programme. Je suis votre hôte, Mehdi Dez de Dez Podcast et aujourd'hui je reçois... Nalexa, salut à toi Nalexa.
Bonjour Mehdi.
Alors, ce qu'on va faire avant de lancer, je pense que les auditeurs et les auditrices auront déjà vu le billet d'annonce du podcast, mais avant d'annoncer la couleur et le jeu de ton choix, je vais peut-être te laisser te présenter en quelques mots.
Alors, je m'appelle Nalexa sur les réseaux sociaux. J'ai 38 ans, ça fait une trentaine d'années que je joue aux jeux vidéo. Ça commence à faire beaucoup, je me sens tellement vieille. À chaque fois qu'on annonce un anniversaire de personnage de jeu, c'est horrible. Et voilà, et j'ai un blog qui est sur kerscam.fr où je raconte un peu de tout. En ce moment, pas trop jeux vidéo. Je suis plus série et ciné en ce moment, mais ça dépend des périodes. Voilà.
On va pas faire de la trivia jeux vidéo, mais peut-être du trivia sur le nom de ton site. Alors ça m'avait intéressé quand je m'étais renseigné, qui est une espèce de code breton qui mixe, si je dis pas de bêtises, à la fois ton nom et celui de ton compagnon, il me semble. Parce que c'est vrai que Kerscam, comme ça, quand ça sonne, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une nouvelle quête de la légende du roi Arthur ou...
Ouais, bah c'est ça, parce que le Ker, ça veut dire chez en breton. Enfin, le lieu, enfin, oui, la maison, enfin, le... Donc voilà, enfin, ça se trouve, je dis des bêtises, hein. Dans ma tête, c'est ça. c'est le principal. Et donc voilà, donc c'était un mix, voilà, pour dire l'endroit de nous deux, voilà, c'était ça.
D'accord. Ok, bah, très bien. Donc on reste finalement sur une veine, pour faire de la culture facile ou culture pour les nuls, sur une veine assez celtique, vu que le jeu qui est cher à ton cœur, en l'occurrence ton chez-toi vidéoludique, ça reste Zelda Link to the Past.
Oui, c'est ça, ouais. C'était un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur Super NES, bon, après Mario World et F-Zero, donc c'est... C'est toujours, il a une place particulière dans mon cœur par rapport à comment j'ai réussi à l'obtenir, comment j'ai commencé à y jouer et toute l'aventure que j'ai suivie sur ce jeu-là. À chaque fois qu'on me demande ton jeu, c'est toujours celui-ci qui ressort en premier.
Eh ben, pas de raison de déroger à la règle, donc on va marquer une courte pause et on va se lancer dans l'univers de Zelda Link to the Past sur Super NES en compagnie de Nalexa. On se retrouve avec Nalexa autour, donc, comme on l'annonçait juste avant, une petite pause musicale de Zelda A Link to the Past. Et on a voulu, enfin surtout Nalexa en l'occurrence, injecter un découpage, on va dire, un peu précis de l'émission. Enfin, tu avais bien tes idées et ce dont tu voulais parler en particulier sur cet épisode de Zelda en tête. Et donc on va commencer par quelque chose, on va dire, d'assez personnel, hein. Tu parlais de ton acquisition du jeu. Elle a vraiment pas été simple. Alors on peut peut-être déjà revenir dans un premier temps là-dessus. Peut-être que c'est, on va pas faire de l'analyse de comptoir, mais peut-être que c'est ce qui t'a créé ce lien aussi fort avec le jeu. Peut-être que ça y a participé.
Oui, je pense que ça y a participé. Alors, pour revenir à l'époque, Internet n'existait pas. Enfin, si, il existait, mais pas chez moi. Pour avoir le jeu, comme j'habitais au fin fond de la Bretagne, le plus simple, c'était la vente par correspondance. Donc on l'avait commandé, enfin mes parents l'avaient commandé pour moi sur un catalogue de vente par correspondance normal, type 3 Suisses, La Redoute, je ne sais plus lequel. Enfin, ce n'était pas un truc obscur du tout. Donc le jeu arrive, super contente et tout. Je commence à le mettre dans la console. Là, ça va, hop, écran titre. J'appuie tout de suite pour commencer à jouer. Je ne fais pas attention. Et là, il commence à y avoir du texte, parce qu'au début de Zelda, au tout début, il y a du texte. Et je ne comprends rien. Tout est en allemand. Et c'est le drame, parce que voilà, je ne parle pas du tout un mot d'allemand. Donc, au début, ce que j'ai essayé de faire, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas trop grave. Je vais réussir. J'ai le jeu, je peux y jouer. Donc, j'ai commencé un petit peu à avancer. Je comprenais toujours rien. Il y a les petites aides qui apparaissent qui sont que du texte écrit, où on voit, bon, je voyais sur quel bouton appuyer, je comprenais pas trop à quoi ça correspondait. Et au final, j'ai dû abandonner parce que je me voyais pas du tout continuer tout le jeu en allemand, vu dès le départ comment j'avais du mal pour comprendre ce qui se passait, ce qu'il fallait faire là-dessus. Donc j'ai eu un moment de très grosse frustration parce que c'était un jeu que j'attendais et je pouvais pas y jouer et c'était pas évident. Et donc voilà, donc le jeu a été renvoyé. Après, je sais plus ce qui s'est passé, combien de temps il s'est passé, mais en gros, je devais venir en région parisienne et là, mes parents ont réussi à en trouver une version américaine. C'est-à-dire même pas la version française, je crois que le jeu n'était pas super bien sorti en Europe. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais...
À vérifier.
Hein. Et donc, je me suis retrouvée avec une version américaine, mais elle était en anglais, c'était bien. Je connaissais quand même un peu l'anglais. Enfin, même si je ne sais plus quel âge, mais je n'étais pas non plus très très vieille. Donc, ça suffisait. Enfin, c'était de l'anglais assez simple pour moi, pour comprendre au moins ce qui se passait, essayer de résoudre les énigmes sans se prendre la tête par rapport à la barrière de la langue. Qui était là avec l'allemand. Voilà.
Donc tu avais à cette époque-là, tu avais...
Non, je devais avoir, je sais plus quand il est sorti, donc on va dire je devais avoir 13 ans à peu près.
D'accord. Donc 13 ans, et la question que je me posais, c'était finalement, est-ce que tu as essayé un minimum, je crois que tu me disais en off, que tu as été jusqu'aux environs des égouts, enfin sous le château, pour ceux qui ont eu l'occasion de faire le jeu, donc je pense une bonne partie des auditeurs et des auditrices, mais après, il y avait vraiment, c'était vraiment insurmontable, en tout cas au niveau de la barrière de la langue, quoi.
Je trouvais que je naviguais vraiment à vue quand je jouais, donc j'essayais des trucs, ouais ça marchait et j'avais l'impression que ça allait me gâcher une bonne partie de l'histoire et de l'aventure, puisque oui je testais, j'essayais des choses et enfin voilà je comprenais rien ce que je faisais. C'est bon, bien sûr taper avec l'épée, enfin des trucs comme ça, ça vient assez vite, mais j'avais vraiment l'impression que j'allais rater plein de choses et comme le jeu s'annonçait assez long et avec plein de quêtes à faire. Je me dis, je vais jamais m'en sortir si je comprends rien ce qu'on me raconte à chaque fois que quelqu'un me parle. Quoi. Voilà.
Alors c'est marrant parce qu'il y avait quand même déjà une dimension d'anticipation, c'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir le côté, on va dire, abnégation, je vais essayer de trouver, je vais peut-être m'en sortir, mais il y avait déjà forcément une connaissance du contexte, peut-être que c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question, mais est-ce que je suppose que tu avais fait les précédents, si tu étais familière avec l'univers justement de Zelda ?
Pas du tout, j'avais joué à aucun Zelda avant. En fin de compte, je commençais vraiment ma période de console avec la Super Nintendo. Je jouais de temps en temps chez les cousins à la NES ou à la Master System. Mais ouais, c'était mon premier Zelda. Après, je ne sais pas, c'est peut-être par rapport au magazine que j'avais lu à l'époque. Je pense que c'est ça qui avait vraiment présenté le jeu comme quelque chose de très très long, même avec la pub, avec le squelette, là, où il disait « vous ne finirez jamais Zelda ». J'avais bien été hypée par tout ça. Et donc voilà, donc pour moi c'était un jeu long, un jeu où il fallait lire du texte, où il fallait comprendre, où il y avait plein de choses à faire. Et c'était pas Mario, quoi. C'était pas Mario F-Zero. Mario F-Zero en allemand, bon, ça m'aurait pas gênée. Mais voilà, Zelda, beaucoup plus. Donc je pense que c'est ça, dès le départ, je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que ça allait me bloquer en fin de compte.
Quitte à finir en squelette, autant le faire dans la langue de Molière plutôt que celle de Goethe, on va dire. Plus sérieusement, moi je faisais un parallèle avec, on va dire, une expérience personnelle où toi tu me disais que globalement tu te sentais pas pour Zelda ou peut-être même aujourd'hui, quoique avoir l'envie de poursuivre dans une langue que tu ne connais pas ou ne maîtrises pas, enfin ne connais pas en tout cas, parce que pour l'anglais tu ne la maîtrisais pas à l'époque et pourtant ça t'a pas empêché de faire le jeu et de l'apprécier. Mais Mais moi, j'ai une question toute bête, c'est que finalement, dans mon expérience personnelle, j'avais fait, par exemple, les Final Fantasy 8 à 10 en japonais pur, alors que j'étais très loin de le maîtriser. C'est toujours pas le cas, mais j'ai eu des rudiments entre-temps. Et pour autant, ça ne m'a pas plus frustré que ça, à part les énigmes pas possibles, où, Dieu merci, tu parlais d'Internet, commençait à pointer le bout de son nez en 56K à l'époque, et tout doucement vers l'ADSL. Voilà, les jeunes ADSL, si vous nous écoutez. Au contraire, ça m'a permis des fois même de me créer de nouvelles histoires dans ma tête. Donc finalement, pour Zelda, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, bon, bah, je vais faire avec, je vais peut-être me créer une histoire. Le barrage, la frustration s'est posé comment par rapport justement à cet exemple que je te donne, on va dire en contre-exemple. Ouais.
Ben déjà, je savais que le jeu était en français, existait en français.
Oui.
Donc, c'est pourquoi j'arrive pas à le trouver en français. Je l'ai commandé sur un catalogue français. Mince, pourquoi ils m'ont envoyé une version allemande? Donc il y avait ça, voilà déjà. Et puis après, c'était peut-être le ras-le-bol par rapport à tous les jeux auxquels j'avais joué avant, où c'était des jeux qu'on me donnait sans notice, sans rien. Il fallait découvrir ce qu'il fallait faire et peut-être qu'au final, je me disais, mince, celui-là, c'est le premier que je vais faire. J'aurai tout, j'aurai une notice, je saurai comment ça marche, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir comprendre. Je sais ce qui, entre guillemets, ce qui va se passer, quelles sont les mécaniques un peu. Et je n'ai pas envie de passer mon temps encore à explorer, à essayer de deviner avec un pauvre bouton. Ouais, dans ce cas-là, il faut que j'appuie là, mais après, dans l'autre cas, est-ce que c'est le même bouton qu'il faut utiliser? Je ne sais même pas vraiment à quoi ça sert. Et donc voilà, donc surtout que bon, souvent le bouton peut avoir différentes actions suivant comment le contexte dans lequel il est utilisé, donc je me dis je vais louper des choses et ça va m'énerver. Et d'ailleurs à un moment dans le jeu il y a eu un passage où je comprenais pas parce que j'arrivais pas et je me suis dit que c'était même en anglais et je me suis dit j'ai pas compris quelque chose. C'était le monstre où il a une tête de glace et une tête de feu. Oui. Il faut utiliser les deux bâtons et j'essayais et ça marchait pas et je me dis j'ai loupé un truc. Il y a un moment il m'a expliqué quelque chose et j'ai pas compris comment fallait le tuer et j'ai passé je sais pas combien de temps dessus à me dire mais pourtant ça doit être ça, utiliser la glace sur le feu et inversement. Et je sais pas, la première fois que j'ai dû le faire j'ai dû mal le faire et je suis restée bloquée là-dessus en me disant je suis bloquée parce que j'ai pas compris ce qu'il y avait marqué en anglais alors que ça n'avait rien à voir puisque au bout d'un moment j'ai arrêté le jeu, j'ai repris, j'ai fait ah bah oui c'était tout ça, c'était tout bête. Mais tout de suite, enfin même en anglais, il y a des moments où je me braquais en disant si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas compris ce qu'on m'a expliqué. Donc, bon, en allemand, ça aurait été catastrophique dès le départ. Donc, c'est pour ça, ouais, c'est tout un assemblage de choses qui faisait que là, c'était un jeu qui devait être en français, que je devais comprendre parfaitement. Et l'allemand, c'était pas ça. Et l'anglais, ça a été parfois un peu compliqué.
Alors, justement, c'est un élément que tu rajoutes, c'était la projection. Alors, il y avait celle du magazine qui te faisait dire, plus la pub qui t'avait hypé et qui te disait, bon, je vais pas aller aussi longtemps dans une langue que je ne maîtrise pas. Mais aussi, ce que tu expliquais, que c'était vraiment ton premier jeu au sens d'expérience globale, c'est-à-dire avec une notice, avec tu savais là plus ou moins là où tu allais, aller en termes de contrôle, pas d'histoire évidemment vu que c'était tout le sel du jeu. Et tu parlais donc de ton Amstrad, c'est ça si je dis pas de bêtises, et un rapport. Alors là aussi de ce que j'ai pu glaner entre quelques interviews, au code assez précoce parce que c'est toujours les petites tentatives de psychologie de comptoir, mais je sais que tu parlais du fait que tu avais commencé à codé très tôt, notamment avec un ouvrage que t'avais offert ton père, je crois, à tes 10 ans, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a un lien d'avoir finalement une expérience qui était posée, en l'occurrence avec Zelda, où tu allais juste engouffrer dedans, plutôt que d'avoir à tâtonner et encore à coder une énième fois avant de pouvoir profiter de l'expérience de jeu, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque?
Je vois pas du tout ça de la même façon. Enfin, c'est vrai que d'avoir eu ce magazine, c'était, je sais pas où il avait trouvé ça. Enfin, c'était plus soit un petit magazine où on t'apprenait les rudiments du basique pour les tout petits. Maintenant, je trouve ça génial. Je sais même pas si ça existe maintenant pour les jeunes et tout. Et il m'avait donné ça parce que j'étais malade. Donc j'étais alitée. Donc ça a été mes premiers pas au niveau du code. Bon, maintenant c'est mon boulot. mais c'est plus du basique, hein, je vous rassure. Et ouais, enfin, c'est un concept aussi que j'ai toujours bien aimé, en fin de compte, fouiller, essayer de comprendre comment ça marche et pourquoi dans Zelda j'avais... Parce que pour moi, enfin, je pense qu'il y avait aussi le fait... Ça doit être le premier jeu, entre guillemets, à histoire que j'ai fait. Enfin, les autres jeux, c'est pas qu'il n'y avait pas d'histoire, mais c'était plus l'instantané, enfin, du jeu, entre guillemets, enfin, du jeu direct. Tandis que là, il y a quand même... Enfin, même si l'histoire est un peu bateau, c'est pas non plus... C'est du Zelda, hein, c'est pas un truc hyper compliqué. Il y avait quand même... Voilà, on était un personnage qui vivait une aventure et je n'avais pas forcément vécu ça à ce moment-là dans les jeux et... Ouais, c'était, je sais pas, c'était la nouveauté. Je m'étais dit, j'ai une console. La console, c'est facile. Tu mets la cartouche, tu joues. Et t'as pas à t'embêter à essayer de comprendre ce qui se passe. On va tout expliquer. Et voilà. Enfin, c'est ouais. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question.
Si, si, complètement. En fait, tu avais déjà une logique, on va dire, bien déterminée. Moi, là aussi, pour m'appuyer sur ma propre expérience, je n'ai eu que des consoles. Du coup, j'ai jamais eu de micro. Et du coup, je n'avais pas cette, on va dire, cette double culture, c'est peut-être un mot un peu fort, entre ces jeux à programmer ou à taper les lignes de code et effectivement l'expérience de la console. Il suffit de, à l'époque, de mettre sa cartouche, puis un peu plus tard uniquement son CD et rouler jeunesse, comme qui dirait. Non, non, ça répond très bien à ma question. Et on aura fait un petit, on va dire, un petit tour de tous ces éléments sur ton acquisition du jeu, ces premiers accès un petit peu complexes. Puis on aura pu te découvrir justement à travers le jeu. On va marquer donc une petite pause et puis on va se retrouver pour une seconde partie où on va s'intéresser au découpage justement de Zelda Link to the Past. De retour, toujours sur Legend of Zelda Link to the Past, et toujours avec Alexa. Donc, le fameux Zelda sorti en 92, qui avait une particularité qui a fasciné les joueurs à l'époque et sur laquelle tu voulais vraiment insister. En annonçant la seconde partie, je parlais de découpage du jeu. Je pense que ceux qui ont fait le jeu voient déjà où, à peu près où on veut en venir, à savoir cette fameuse découverte, à savoir le monde de la lumière et...
Le monde des ténèbres.
Voilà.
Parce que je sais que moi, quand j'y avais joué, donc on commence à faire le tour de tout Hyrule et tout, on est passé un peu partout, globalement. Et d'un seul coup, on arrive... Enfin, moi, je suis arrivée dans ce monde-là, déjà, avec la forme de lapin. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Je ne comprends plus rien. Je ne reconnais plus rien. Et voilà, et au final, on arrive sur un nouveau monde un peu différent, mais très semblable à l'ancien, qui revient dans pas mal de choses après la deuxième étape, on va dire, de l'aventure. On est un peu au milieu, et ce passage m'avait vraiment étonnée, et j'avais passé du temps sous forme de lapin, pareil, à pas comprendre ce qui se passait. J'ai aussi blâmé l'anglais pour ça. C'était de sa faute. Ouais, c'était ce passage-là. Après, la découverte au fur et à mesure de la téléportation de « Ah oui, mais si je me téléporte là et que j'arrive à cet endroit-là, alors je ne suis pas tout à fait au même endroit, mais ça nous ouvre un autre passage. » Enfin, ça ouvrait une troisième dimension, mais c'est une nouvelle réflexion sur la manière de jouer. Et j'ai vraiment trouvé ça génial et ça m'a marqué, quoi, toute cette transformation d'Hyrule dans le monde des ténèbres.
Oui, tout à fait, d'autant plus que il y a le moment où on commence à contrôler ces passages, hein. Tu l'annonçais un petit peu, donc Hyrule, alors encore une fois, je sais que je vais être insultant pour les fans de jeux vidéo, mais pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu et qui nous découvriraient, donc qui est la ville principale qu'on explore dans l'ensemble des Zelda, et en particulier ce Link to the Past, et en l'occurrence, il y a un passage qui se fait à un moment dans le jeu via ce qu'on appelle un objet qui s'appelle le miroir magique, et comme tu disais, on revoit tout autrement l'architecture. Il faut savoir que si on se téléporte, comme tu précisais très bien aussi, savoir où on atterrit, on peut même des fois atterrir hors espace, on va dire, ce qui nous fait nous re-téléporter directement dans le monde duquel on vient. Donc c'est toute une logique à avoir. Alors d'un point de vue technique, il faut savoir, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais préciser que le jeu, si je ne dis pas de bêtises, est sorti sur une cartouche de 1 méga, ce qui était énorme à l'époque, ce qui fera rire au moment où on enregistre l'émission, vu qu'il y a un nouveau modèle de PlayStation 4 d'un Tera qui a été annoncé. Donc on voit la proportion et le grand écart technique. Et donc il y a eu toute une façon de penser ce nouveau jeu qui dans lequel il a fallu mettre, peut-être pas au forceps, mais en tout cas un monde de possibles qui s'ouvrait, et comment il a été exploité là en l'occurrence dans cette espèce de dichotomie monde de lumière et monde des ténèbres. Donc moi, ce que je me demandais, alors est-ce qu'il y a des indices que toi peut-être tu as repéré? Moi je me disais, est-ce que c'est un heureux hasard? Est-ce que jusqu'à quel point ça a été pensé en amont, tu penses, par les créateurs, et surtout comment toi, est-ce que tu l'as ressenti au-delà de la surprise, comme tu nous disais, de ce passage dans le monde des ténèbres? C'est-à-dire, est-ce que le scénario a coïncidé avec les nouvelles prouesses techniques de la cartouche? Est-ce que, voilà.
Je pense déjà, c'est assez amené le fait de pouvoir se téléporter un peu n'importe où. C'est-à-dire qu'au début, on commence juste à un endroit, donc on est sous forme de lapin, on ne peut rien faire. Première chose que j'ai essayé de faire, c'est d'aller tuer des monstres. Très mauvaise idée. Donc une fois qu'on a compris ça, on essaye de comprendre, je suis dans un nouveau monde, je comprends pas trop ce que je fais, je peux plus rien faire, qu'est-ce que je fais, j'essaye d'éviter les monstres, essayer de se promener un peu pour essayer de comprendre comment retrouver entre guillemets ses pouvoirs, parce qu'on a un peu tout perdu à ce moment-là. Donc c'est le fait entre guillemets de revenir à zéro dans le jeu. Enfin, moi, je l'ai senti vraiment comme ça, le fait de repartir de zéro, comme souvent dans les jeux où on arrive, au début, ouais, t'as tous tes pouvoirs et puis il se passe un truc, tu perds tout. Bon, on les retrouve assez vite, hein, c'est pas non plus catastrophique, mais je trouvais ça sympa parce que on se retrouve, ouais, ça fait vraiment l'histoire du monde parallèle, du monde maléfique. Enfin, c'est un thème, on va dire. Enfin, moi, que je trouve assez récurrent, ce principe-là de monde parallèle, et le fait, voilà, on arrive dans le monde des méchants, comme tout le monde a bien sûr un jumeau maléfique, c'est bien connu. Donc voilà, je vois vraiment quelque chose comme ça, et le jeu amenait au fur et à mesure, en fin de compte, par les mécaniques, enfin après c'est mes souvenirs, ça, c'est pour ça que je dis à chaque fois, ça, je dis des bêtises, parce que des fois les souvenirs sont très trompeurs, amenait le principe de se téléporter, de dire, ben, pour aller de là à là, il faut que tu passes par le monde d'à côté, et au fur et à mesure tu te dis, ouais, mais ok, donc ce passage là je l'ai trouvé parce que là il m'avait dit que si je me téléportais d'ici j'arrivais sur tel truc, mais si je le fais n'importe où, qu'est-ce qui se passe? Et là arrive le moment où on passe son temps à se téléporter, à remercier les concepteurs du jeu qui ne te font pas perdre directement quand tu te téléportes n'importe où, parce que ils auraient pu aussi faire ça, dire, hey, t'as fait des bêtises, on te punit. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce point-là, heureusement, parce que sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient arrêté au final et qui auraient perdu pas mal de choses sur l'histoire. Et non, c'est tout ce concept d'un seul coup se dire, ah, mais ce passage-là sur lequel je galérais, je voyais qu'il y avait un truc là-bas, je ne comprenais pas comment y aller. D'un seul coup, ben, ça y est, on comprend, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Et on voit vraiment moi je voyais vraiment le jeu, avec les deux cartes superposées. Enfin, c'était juste dans ma tête parce que j'avais pas de solution et tout. Mais au bout d'un moment, voilà, on était en train de se dire, ouais, donc là tout à l'heure j'étais dans le monde des ténèbres à cet endroit-là, et là je voyais qu'il y avait un petit monticule auquel je pouvais pas aller. Donc si je me mets là, hop, est-ce que ça va marcher? On faisait des tests et j'ai passé mon temps à me téléporter pour rien. Hein, faut quand même l'avouer aussi.
Alors c'est drôlement chouette ce que tu es en train de dire, parce que ça devance complètement ce que j'allais préciser, et j'avais fait l'hypothèse, est-ce que plusieurs joueurs ont ressenti la même chose? Alors j'ai demandé à des gens dans mon entourage, et j'ai aussi trouvé un article très très bien fichu écrit par Leigh Alexander, je ne sais pas si tu connais, du coup, qui officie sur Gamma Sutra, et donc elle disait plus ou moins la même chose que toi. Alors en substance, on pourrait pourrait dire que Zelda Link to the Past, c'est un peu le jeu des sales gosses. C'est-à-dire que le jeu nous invite à aller faire tout sauf la progression logique du jeu. L'exemple que tu donnais de la téléportation, typiquement, quand on a eu cette idée-là, souvent, c'est parce qu'on voyait, tiens, là, c'est bizarre, il y a un quart de cœur, il n'est pas accessible de moyen physique dans ce monde-là. Il doit y avoir quelque chose. Est-ce que c'est dans le même monde ou est-ce que j'ai besoin de me téléporter en amont ou pas ? Ou le fameux exemple des objets ou des entrées de cavernes qui sont en contrebas et desquels il faut volontairement chuter, un saut de la foi à l'Assassin's Creed avant l'heure. Et donc, finalement, toutes les mécaniques du jeu concourent à ça. On n'a pas juste un bête twist lumière et ténèbres, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste une image négative au sens de la photographie du monde des lumières. On a vraiment tout un ensemble logique. Et après, le deuxième point, dans ce que tu disais, c'est vrai que Link to the Past était le premier, plus ou moins historiquement, à vraiment mettre d'une manière aussi marquée le joueur face à son impuissance. Alors, l'exemple du lapin, il est parfait, parce que j'y pensais pas autant, mais c'est vrai, on est là, on n'a plus rien, on n'a plus nos objets habituels, on se retrouve dans un lieu qu'on ne connaît pas, une représentation de soi qu'on ne connaît pas, et en plus, on n'a pas de quoi se défendre. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à des jeux qu'on retrouvera bien après, notamment sur, je pense à deux gros jeux mainstream sur PS1, qui est PlayStation 1, qui était Castlevania Symphony of the Night, où on se voit retirer toutes ses armes dès les premiers instants de jeu, ou plus connu, Metal Gear Solid 1, où à un moment du jeu, effectivement, on se retrouve démuni et sans l'équipement qu'on avait jusque-là, presque nu comme un ver. Et c'est vrai que Link to the Past, bah, il a posé les jalons de tout ça, d'une certaine manière.
Bah ouais, après, c'est suivant mon expérience, c'est pour ça, si ça se trouve, on va nous sortir après que, mais non, il y avait déjà ce jeu-là. Mais moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Et déjà, comme c'était un genre de jeu auquel j'avais pas joué, d'avoir ça en plus, après, ça m'a un peu embêté parce que j'ai l'impression que tous les jeux devaient être comme ça aussi. C'est un peu le défaut. Hein. Quand on commence un jeu, on découvre quelque chose, on se dit, mais alors, je vais jouer à ça, ça va être pareil. Au final, non. Mais parce que notamment pour donner un exemple, donc au début j'ai joué à Zelda, je connaissais pas du tout les Final Fantasy. Quand j'ai joué à Final Fantasy la première fois, je croyais que j'allais jouer à Zelda. J'ai pas du tout aimé Final Fantasy au début. Je ne sais plus par lequel j'ai dû commencer, mais je me dis, mais c'est quoi ce jeu ? C'est pas du tout comme Zelda, ce qui est normal. Ça m'a bloqué en fin de compte pour certains RPG japonais après, où d'un côté j'aimais bien le principe, mais ça m'a pas mal bloqué. C'est assez marrant le fait d'avoir cette aventure, et je voulais retrouver à peu près le même principe dans les autres jeux que j'avais pas, et au final maintenant je serais la première à râler en disant ouais mais c'est pareil, c'est nul, il pourrait faire autre chose. Mais ouais, c'était juste le début et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Qu'est-ce qui était troublant, c'est la dimension de l'exploration, peut-être, dans le sens où ce n'était pas la même en termes de progression que dans un Zelda. C'est ça qui t'a le plus, on va dire, désarçonné quand tu as commencé à faire des RPG comme les Final Fantasy ou...
Non, ce qui m'a perturbé, c'est ces monstres qu'on ne voit pas et qui arrivent d'un seul coup quand tu te promènes sur la carte. Et puis plus le tour par tour. Pourtant c'est des choses hyper classiques dans
maintenant, même
à l'époque, c'était quelque chose de classique, et sauf que moi, n'ayant joué qu'ayant commencé par Zelda et ne connaissant que ça, j'ai pas compris. Je me dis, mais pourquoi d'un seul coup il y a des monstres qui arrivent, je devrais pouvoir les éviter. Et voilà, on les voyait pas, et pareil, c'était, mais pourquoi je peux pas attaquer tout d'un coup, pourquoi je suis obligée d'attendre que l'autre il me tape, j'ai pas envie qu'il me tape, je peux le battre sans qu'il me tape. Donc voilà, c'était des petits trucs comme ça qui ont fait que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au tour par tour dans les jeux. C'est bizarre, mais vraiment, je pensais que tout allait être comme Zelda, et pas du tout.
On a des moments quand même, on est assez oppressé. Un exemple, par exemple, c'est pas mal ça. Un exemple, c'est celui du village d'Hyrule, peu après qu'on ait été accusé d'avoir kidnappé la princesse Zelda. On se retrouve, les habitants nous fuient, il y a des panneaux de recherche, les soldats arrivent quand les habitants appellent on va dire la police d'Hyrule, si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, il y a déjà des petites bribes comme ça de choses. On n'est plus tout à fait en terrain connu, alors que normalement, le village, surtout dans les jeux de rôle et en particulier japonais, c'est plutôt cet endroit où on est tranquille, où on va un peu, je reprends ton expression, un peu bisounours, où il nous arrive pas trop grand chose. Et puis il y a aussi cet exemple de la forêt dans le monde de la lumière, avec je sais qu'il y a certaines personnes avec qui j'en parlais qui me disaient que c'est un endroit qui les a vraiment peut-être pas traumatisés, mais en tout cas vous avez du mal à passer par cet endroit-là, notamment de par le voleur qu'on croit être un personnage non jouable à qui on va parler, qui nous fonce dedans et puis qui nous fait de répartir tous nos rubis, tous nos objets qu'on a tant bien que mal acquis, et puis qui se sert allègrement. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je pense qu'il y avait peut-être déjà en amont l'idée de nous faire dire que la menace n'est jamais tout à fait loin. Au-delà du fait de vous dire la menace n'est que dans les donjons, non, elle peut être aussi entre les donjons.
Ouais, c'est vrai que j'avais un peu oublié le passage dans le village quand tout le monde nous fuit et tout. C'est vrai que d'un seul coup, on se dit mince, ces gens normalement devraient nous aider et pas s'enfuir comme ça en courant. Mais il y avait vraiment l'ambiance du monde des ténèbres qui faisait que c'était hyper oppressant. Après, c'est vrai que la forêt, au début, on arrive là-dedans, il y a du brouillard, on tourne en rond, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne comprend pas trop. Après, il y a la découverte d'Excalibur aussi qui rebalance tout ça du côté ça y est, tout s'illumine et tout va mieux, quoi. Mais c'est après, oui, il y avait quelques indices dans le monde normal, entre guillemets, mais le monde des ténèbres était moi je sais que je l'aimais bien. C'était il y avait plus personne, enfin il y a des personnes mais elles sont cachées, donc faut aller les trouver. C'est ça aussi qui change, c'est de redécouvrir ce monde avec des nouveaux habitants, plein de choses qui ont disparu, qui ont été bougées. C'est un autre monde. Du moment qu'il y a des poules, de toute façon, dans le village, tout va bien.
D'ailleurs, je crois que c'est des poules squelettiques d'ailleurs dans le monde des ténèbres. Ouais. Mais voilà, enfin, en tout cas, les exemples sont nombreux. Je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent y songeaient peut-être déjà. Mais en tout cas, voilà, c'est essayer d'éclairer ce monde des ténèbres pour finir sur un jeu de mots digne des plus grandes blagues carambars. Très bien. Voilà, je pense que ça met un petit point, je pense, non pas de conclusion, parce qu'il y aurait bien d'autres exemples à donner, mais la séparation quand même de ce monde de lumière et ombre dans Zelda est pas aussi, on va dire, manichéenne qui semblerait, et beaucoup, peut-être même jusqu'à conclure, beaucoup plus adulte qu'il ne semble. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je trouve, des thèmes assez angoissants, comme on peut plus se trouver dans les contes par exemple de Grimm, parce que quand même Zelda ça reste un modèle, on va dire, un peu épique, conte de fées, et c'est vrai que je me souviens de ce boss, alors je ne saurais pas dire dans quel donjon il se situe, mais qui est cette jeune femme qu'on trouve dans le cadre d'un donjon, et il y a un lien d'ailleurs qui se crée très fort avec elle, parce qu'on la protège, on résout les énigmes, on la défend, et au moment où on arrive à l'issue du donjon, elle se transforme en monstre, et en l'occurrence c'est le boss du donjon. Donc voilà, il y a tous ces petits twists là. Alors je te voyais justement sourire et faire des grands yeux sur ce boss là. Peut-être que pour terminer cette partie, nous en dire comment tu as ressenti justement cette séquence de jeu peut-être.
Alors ça fait partie justement des changements entre monde lumière, monde des ténèbres. C'est à un moment je sais plus dans quelle partie du jeu, je sais plus à quel moment il y a Zelda qui nous suit, où on l'a récupéré, enfin, on est en train de se promener avec Zelda derrière, qu'on suit, qu'on emmène à un autre endroit. J'ai un gros trou, mais c'est au début du jeu, ça.
C'est au tout début.
Et on se retrouve en fin de compte dans la même situation avec quelqu'un qu'on libère d'une cellule. On se dit, c'est pareil, on a trouvé une princesse à délivrer. Elle va nous suivre. Hop, on suit. Et puis, en plus, moi, j'ai mis du temps à trouver le boss. Parce qu'on arrive dans cette pièce, il y a un où on a ramené cette fille, et il y a juste un petit carré de lumière. Il faut qu'on aille sur ce carré de lumière pour qu'elle se transforme en monstre. Alors moi, je tournais autour, je fais il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe, il n'y a rien. Donc je me dis, tiens, je vais aller voir, là il y a de la lumière. Et d'un seul coup, on voit cette personne qu'on pensait protéger, et vraiment, dans mes souvenirs là encore, j'étais dans la même situation qu'au départ, et j'avais trouvé quelqu'un dans une prison, je dois la délivrer, hop, je l'emmène dehors. Et d'un seul coup, c'est Ah mince, c'est le monstre. Pourquoi c'est le monstre ? C'était quelqu'un qui était censé être gentil. Et ouais, c'est cette différence entre le monde normal d'Hyrule et le monde des ténèbres. C'est là, parce que dans mes souvenirs, c'est dans le village des voleurs, enfin dans le côté Dark World, qu'on a ce monstre-là. Et vraiment, ouais, c'était exactement un principe de « on va te refaire faire le truc que du début, mais tu vas voir, ça va pas se finir de la même façon ». Et je trouvais ça bien joué, quoi. Mmh. Avec le recul, je trouve que c'est bien joué.
Ah, moi je reste quand même, j'utilisais le terme traumatisé tout à l'heure, c'est-à-dire la création d'un lien comme ça très très fort, comme avec le personnage de Zelda, non seulement la même issue parce qu'on se dit qu'on n'arrive pas à la sauver, et qu'en plus c'est un peu nous directement qui créons cette transformation en monstre et qui devons en plus exécuter dans la foulée. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez costaud, je dirais symboliquement à l'époque, donc avis à ceux qui veulent ranger Zelda dans la case jeu pour enfants, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Voilà qui conclut cette partie sur l'ambiance ombre et lumière de Zelda Link to the Past. On marque une petite pause musicale et justement de musique, il sera question juste après ça. De nouveau de retour pour cette troisième partie dédiée à Zelda Link to the Past en compagnie de Nalexa, et on va aborder le troisième, on va dire, angle d'attaque que tu as suggéré, à savoir les musiques de Zelda. Alors là, en l'occurrence, hein, on sait qu'il y a beaucoup à dire et à voir sur la question, mais sans plus tarder, donc je vais te laisser la parole déjà sur ton ressenti par rapport au feeling que tu as pu avoir sur les compositions du jeu, et pourquoi tout simplement ce choix dans l'émission.
Alors pourquoi déjà le choix, c'est parce que je pense que c'est un des premiers jeux où je me suis vraiment souvenu des musiques, et là je suis en train de penser que je dis des bêtises parce qu'il y a eu F-Zero avant et F-Zero aussi m'a beaucoup marqué musicalement, donc je dis des bêtises, mais quand même il fait partie des jeux qui m'a marqué. Un des premiers jeux donc qui m'a marqué au niveau musique. Parce que pourquoi je sais pas, elle était un peu entre guillemets épique, enfin simplement quand même, parce que c'est pas non plus ça part pas non plus dans des délires trop symphoniques et tout, mais c'était elle était assez, enfin globalement assez joyeuse à part certains thèmes, mais non, pour moi ouais, elle représente bien, enfin elle est très ancrée aussi par rapport aux différents mondes. On a vraiment une différence entre les deux mondes.
Pour prendre le relais dans ce que tu disais, elle est effectivement épique, mais pas trop. C'est vrai qu'on n'est pas au-delà des limitations techniques, on n'est pas sur du Hans Zimmer, mais surtout dans ce que tu disais, dans ce côté un peu joyeuse, c'est assez intéressant parce que j'ai eu une discussion avec un autre invité du podcast. Il m'expliquait que finalement, pour lui, ça lui semblait logique. Sur ce Zelda en particulier, parce que le héros reste avant tout un enfant. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a une dimension épique, mais on est quand même avec un protagoniste qui est un enfant, avec une mythologie, une ambiance plutôt conte de fées. Et d'ailleurs, ça, on le retrouve d'une certaine manière, de façon différente certes, et d'un point de vue technique aussi, mais on le retrouve dans les Zelda suivants, notamment le Ocarina of Time. On a des morceaux épiques, mais qui reflètent effectivement plutôt la thématique de l'enfance, une certaine façon. Alors je sais pas si tu es d'accord déjà avec ça pour commencer.
Oui, c'est vrai que oui, c'est le petit garçon qui part à l'aventure, qui est tout content, qui prend son épée et qui va combattre les gros monstres. Mais ouais, il y a ce côté aventure, il y a ce côté quête initiatique qui est bien retranscrit au niveau musique. C'est, on a vraiment, ouais, tout le temps ce petit côté je suis un enfant et je pars parcourir le monde et tout va bien et c'est cool et c'est chouette et je vais m'amuser. Ça retransmet bien par rapport au thème global qu'il y a dans le monde de lumière d'Hyrule. Ça retransparaît bien. Et c'est, ouais, après, suivant les lieux aussi, je trouve, enfin, vraiment, chaque lieu a vraiment sa musique et retransmet un peu à chaque fois les différents univers. Je pense au village avec une musique super douce. C'est par rapport à ce que tu disais, au moment où tout le monde nous fuit, alors qu'on a ce côté super, au départ super doux de la musique du village qui est tout calme. On sait qu'on va être bien là, qu'on va être tranquille, on va pas être embêté. Ça représente bien, ouais, le village dans lequel on n'aura pas de problème. Et voilà, ouais, ça permet d'avoir une idée de l'endroit dans lequel on vient d'atterrir, cette musique tout au cours du jeu.
Alors le thème dont tu parlais, effectivement, qui est le thème du village Cocorico ou Cacarico en original ou en anglais. D'ailleurs, pour toi, vu que tu nous disais avoir fait la version anglaise, c'est effectivement Cacarico Village. Et puis il y a effectivement ce passage où la musique change, d'ailleurs, lorsqu'on est dénoncé par un des villageois et attaqué par un des soldats de la garde d'Hyrule pour devenir beaucoup plus anxiogène. Donc je crois que les deux seules issues qu'on a, c'est soit quitter le village, soit abattre donc son ennemi, ce soldat de Hyrule.
On ne tue pas les gens, on s'enfuit.
Ah, y a quand même des moments, même si je pourrais, comme toi, prôner la non-violence, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, dans Zelda, on n'a pas trop le choix.
Oui, mais dans ce cas-là, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas au courant, donc on s'enfuit, on ne le tue pas. C'est un pauvre monsieur qui est chargé de faire respecter l'ordre et la loi et qui n'est pas au courant qu'il y a une injustice en cours, donc il ne faut pas le tuer, il faut être gentil avec lui.
Les personnages numériques ont une âme, donc Police de Zelda, Nalexa vous aime. On a aussi, alors c'est certes c'est très simple, puis c'est bien qu'on n'ait pas commencé par ça aurait fait trop cliché, mais il y a un autre thème, tu me disais, que tu as particulièrement apprécié, qui est tout simplement le thème d'ouverture finalement du jeu.
Bah ouais, le thème d'ouverture, pour moi, c'est là où il y a le côté épique. C'est quand d'un seul coup on arrive, on a l'image avec le logo Zelda, et puis il y a cette musique qui commence à démarrer. Et tout de suite, on n'a qu'une envie, c'est d'appuyer sur le bouton et de commencer à jouer. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. C'est d'ailleurs bien plus tard que j'ai vu que quand on attendait sur l'écran titre, on avait toute l'histoire qui se déroulait. Parce qu'à l'époque, je voulais jouer, je m'en moquais de rester sur cet écran titre. Et ça représente à chaque fois pour moi, ouais, de toute façon, c'est la musique de Zelda. Et tout de suite, on l'entend et on a envie de démarrer une nouvelle aventure. C'est automatique pour moi à chaque fois.
Et même pour rajouter, je dirais, aux seules compositions, il y a aussi les effets, donc le sound design, au sens où ce que tu expliquais de côté épique. Moi, le souvenir que je garde le plus vif de ce thème d'intro, qui ne dure que 18 secondes, c'est le moment où l'épée s'encastre dans le logo et on a effectivement ce bruit tellement reconnaissable de l'épée de Link qu'on entend pas spécialement très très souvent. Je crois que le seul moment où on l'entend à d'autres moments du jeu, c'est lorsque Link gagne un combat contre les boss et qui fait tournoyer justement son épée, il me semble, je crois que l'entrechoquement d'épée avec la police d'Hyrule que tu protèges tant n'a pas le même bruitage, mais après peut-être que je me trompe, je sais pas, dans tes souvenirs.
Je sais plus non plus dans mes souvenirs. Je pense que c'est à peu près au niveau des boss et ouais, je sais plus. Par contre, ouais, au niveau pareil, au niveau effet sonore, moi j'ai toujours la musique en tête quand Link ouvre un coffre. C'est horrible. C'est-à-dire que même des fois au boulot, je me mets à le chanter quand j'ai trouvé un truc. C'est voilà. Donc je m'en rends plus compte. Mes collègues ne me font pas trop remarquer, donc soit ils pensent que je suis un cas désespéré, soit ils ne comprennent pas. Mais non, et c'est vraiment, ouais, c'est pourtant, je pense qu'ils étaient dans les précédents. Enfin, cet effet-là, je pense qu'il était dans les précédents. J'avoue que n'ayant jamais joué au 2 et le 1, j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne sais plus. Mais moi, c'est ça, ouais, il y a tout plein d'effets sonores de Zelda, en plus de la musique qui reste marquée. Alors je pense que aussi c'est le fait que c'est un des premiers jeux et donc automatiquement il me reste en mémoire par rapport à d'autres jeux. Mais ouais, l'ouverture du coffre avec Link qui brandit l'objet au-dessus de sa tête, c'est voilà, cet effet sonore-là, c'est tellement bien. On a tellement l'impression d'avoir découvert le plus grand trésor du monde. C'est magnifique.
Et finalement, si on regarde l'arborescence, tu parlais du thème titre. qui envoie, comme on dit familièrement, du bois au niveau épique. On a la démo d'ouverture, donc opening demo, qui est le deuxième thème qui, effectivement, quand on laisse tourner la console, qui lui est beaucoup plus déjà beaucoup plus sombre, beaucoup plus mélancolique. On voit la progression vers ce qui arrive au royaume d'Hyrule et cette menace qui plane. Et puis, alors, on a un truc assez assez étonnant, mais en même temps, si on s'intéresse aux musiques du compositeur qu'on a toujours pas nommé, qui est Koji Kondo, à qui on doit les musiques de Mario, de Zelda et de bien d'autres titres de chez Nintendo, ce sont les silences. Un exemple tout bête, c'est que finalement, quand on commence le jeu, la musique est d'une discrétion rare par rapport à d'autres jeux. Ce qu'on retient, c'est plus le bruit de la pluie battante au début du jeu, lorsque notre oncle nous laisse et part vers le château d'Hyrule, mais la musique et c'est quelque chose qui est quand même assez emblématique des travaux de Koji Kondo, c'est d'arriver à jouer, ce qui est une des plus grandes finesses en général pour les musiciens et les compositeurs, d'arriver à jouer sur les silences. Alors je sais pas si tu les as ressentis, ces silences, à ce moment-là ou à d'autres moments du jeu.
Ouais, c'est vrai que le début, c'est pareil, pour revenir dans le thème de l'enfance, on se retrouve, on est tout seul dans la maison, il y a un gros orage qui gronde derrière, et on nous dit surtout tu sors pas. Mais on entend principalement que la pluie qui tombe, et on se dit mais non, je vais rester là, je suis bien au chaud là, dans ma cabane. Bon, au bout d'un moment, on s'embête un peu, donc on va voir ce qu'il y a dehors. Mais ouais, il y a quand même, c'est la musique, ouais, pas trop présente, mais juste des petits effets sonores plus la pluie qui tombe. Tout de suite, ça nous met dans une position je suis un petit enfant, j'ai peur de l'orage, mais je vais quand même aller outre ça pour comprendre ce qui se passe, et parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit maintenant faut sortir. Donc c'est mais globalement la musique de Zelda, je la vois vraiment comme à chaque fois comme un fond, justement quand je disais qu'elle est pas épique, c'est qu'elle va pas prendre le pas sur l'aventure, sur le jeu. Elle va vraiment juste être là pour souligner différents thèmes et souligner différentes situations. Je la vois vraiment comme ça. Ça marche bien parce que ça me permet qu'elle reste en tête un long moment.
Tu dirais simplement que finalement c'est des compositions plutôt discrètes.
Ouais, c'est assez discret. Ouais, c'est vraiment, c'est comme tu disais. En fin de compte, c'est assez compliqué de faire quelque chose de discret, mais qu'on n'oublie pas quand même. C'est tout de suite, il suffit d'un petit point pour se dire ah oui, c'est vrai qu'il y a ce passage-là où oui, il y a de la musique, mais il y a ça en plus. Ou ah oui, mais c'est vrai que dans ce cas-là, il se passe ça, mais ah oui, la musique à ce moment-là, elle est comme ça. Elle est vraiment. Enfin, pour moi, elle est vraiment bien faite parce qu'elle prend pas le pas sur le jeu, mais elle est tout le temps là et elle reste en tête sans non plus devenir abrutissante. Parce qu'il y a aussi ce point-là, à partir du moment où la musique devient tout le temps la même, c'est un peu, on en a marre, qu'on a juste envie de la couper. Alors j'ai jamais ressenti ce besoin dans Zelda de parcourir le monde, avoir globalement tout le temps la même musique, et c'est pas gênant quoi. On est content, elle est là, elle est chouette, elle est bien.
Et à l'inverse, je dirais à l'opposé total, c'est un petit peu, je dirais, moins présent et ça vient pas s'opposer à la discrétion. On a dans les moments justement épiques une maîtrise, je trouve, des percussions qu'on retrouve, à l'époque, pas très souvent. Par exemple, tu parlais du morceau titre, son côté emblématique, c'est finalement de s'ouvrir sur un gros coup de gong. On a aussi d'autres thèmes, alors j'en aurais pas forcément qui me viennent tout de suite à l'esprit, mais où le travail des percussions est très subtil, et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent d'ailleurs chez Koji Kondo. Je vais donner un autre exemple, je pense qu'il sera assez parlant aux joueurs de Super Nintendo, et parce que c'est un jeu que beaucoup de monde a eu, peut-être encore plus ou à peu près équivalent à Zelda, c'est Super Mario World dont tu parlais tout à l'heure. Quand on tend l'oreille, on a vraiment un travail sur les percussions qu'on retrouve pas trop ailleurs, qu'il avait déjà commencé depuis la Nintendo, sachant que il y avait des morceaux, je crois, sur Super Mario 3 qui jouaient vraiment sur la variation variations de percussion. Et puis on a des exemples tout bêtes, c'est-à-dire que alors je sais pas si tu te souviens, il y avait le thème du deuxième niveau dans Super Mario World, celui qui est le premier où on rencontre Yoshi, et il y a une distinction en fait entre la mélodie jusqu'au point où on chevauche Yoshi pour la première fois, où il y a des petites percussions qui se rajoutent et s'implémentent enfin dans le... Alors je sais pas si on va pas trop non plus digresser, c'était un petit peu pour élargir les compositions de Koji Kondo. Est-ce qu'il y a peut-être un ou plusieurs autres thèmes musicaux que tu voulais encore évoquer avec nous autour de ce Zelda Link to the Past?
Bah, comme je disais, ouais, il y a toute la partie quand on passe du côté du monde des ténèbres où les thèmes musicaux changent énormément. Donc c'est pareil, ça va dans tout le reste, ce qu'on disait dans la partie précédente, c'est on arrive dans un nouveau monde, tout a changé, même l'environnement entre guillemets sonore a changé, on se retrouve avec des thèmes vraiment différents, donc en dehors du thème principal qu'il y a quand on se promène dans le monde d'Hyrule des Ténèbres, il y a tous les autres thèmes. Je crois que le thème du village aussi il change, je crois, du côté Dark World, où il y en a pas vraiment, je crois qu'il y en a pas, c'est ça, on est toujours dans le même thème que le thème global. Dans les thèmes marquants, il y a aussi le passage où, je sais pas si je vais parler typiquement de la fin, mais toute la fin qui est sur un thème sonore où pareil ça se finit, enfin c'est assez, là par contre on est entre guillemets dans l'épique, on repasse, on revient dans tous les lieux dans lesquels on est passé, ça permet voilà de finir l'aventure en beauté. Moi je sais que je restais scotché devant en train de me dire oh, c'est génial, il y a ça aussi, hop c'est pas fini, ah oui il revient là aussi, hop il y a ça aussi, enfin voilà, j'étais vraiment émerveillée en voyant tout ça avec la musique qui accentue le thème de tiens ça y est t'as fini ton aventure mais tu vas en avoir jusqu'au bout, tu vas t'en souvenir quoi même après. Et c'est vrai que juste le passage, juste à la fin, attention pour ceux qui ne l'ont pas fait, quand on remet Excalibur au milieu de la forêt, ça se termine comme ça. Je trouve ça tellement génial, il ne se passe plus rien. Par contre, là, c'est pareil, dans mes souvenirs, c'est on remet l'épée et il n'y a plus rien, c'est fini, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Et c'est un silence aussi, mais c'est tellement bien de finir comme ça. Je trouve ça génial.
C'est vrai que c'était des choix assez osés. Moi, l'autre exemple qui me vient en tête sur un silence aussi, là tu parlais de la fin, c'est très drôle, donc le thème dont tu as parlé, donc c'est le thème de fin, donc qui s'appelle tout simplement Ending, donc qui est assez long. C'est vrai que, comme tu le dis, le passage et le mouvement de caméra sur les villages est très très lent. Donc si je me trompe pas, ce sera sûrement en post-prod, comme qui dirait, mais c'est celui qui fait d'accord, très bien. C'est bien celui auquel je pensais. J'arrête de vous écorcher les oreilles, chers auditeurs et auditrices. Et du coup, on a effectivement ce silence avec le dépôt de nouveau de l'épée Excalibur. Et ça, je l'avais retrouvé à l'époque dans Mario 3. Je sais pas si tu te souviens, au moment du lever de rideau du jeu, en fait. On n'a rien, il n'y a pas de son, c'est-à-dire qu'il y a un silence complet. C'est l'écran d'intro, en tout cas de Mario 3, en fait, on a une espèce de sol un petit peu en damier noir et blanc, et on a un rideau d'une pièce de théâtre, et le rideau se lève, et pendant tout ce temps-là, et jusqu'à ce qu'on appuie sur Start, il n'y a pas de son, et c'est un choix. D'ailleurs, Koji Kondo en parlait dans une interview, c'est un choix de sa part, sûrement la dimension théâtrale accentuait ce côté-là. C'est assez rigolo, et c'est vraiment un des compositeurs les plus emblématiques, et un des compositeurs aussi du silence, même ça peut paraître curieux à dire. Peut-être une dernière piste ou un dernier mot globalement sur les compositions de ce Zelda Link to the Past.
Voilà, je repensais aussi au thème qu'il y a quand on est dans l'église avec le prêtre au début du jeu. C'est pareil, c'est un thème super doux qui est... En fin de compte, il se passe quand même... Enfin, moi, dans mes souvenirs, il se passe quelque chose de grave. Et on a un thème super doux où on a envie de rester là où on est. On n'a plus envie de bouger. À l'opposé, on a ce thème qui... Enfin, on a ce thème tout calme et tout. Alors que, voilà, le pauvre prêtre, il est mort. C'est triste.
Alors pas au premier moment où on le rencontre, effectivement, j'allais venir là-dessus, je savais pas si tu allais en parler ou pas, mais le premier moment, c'est quand on sort, c'est vrai qu'on sort d'une espèce d'apnée, ce fameux moment que tu n'as pas dépassé avec ta version allemande à l'époque, qui est en fait ce moment où on pousse ce fameux mur dérobé, on va dire, et où on entre dans l'église avec ses chœurs, avec les capacités de la plus musicale de l'époque, évidemment, qui est très doux, très... vraiment un côté très rond en fait, comme tu dis, et où on le rencontre, et on a vraiment ce côté un peu bouffé d'oxygène après cette espèce d'apnée dans les égouts qui est quand même assez c'est assez pesant. Enfin, dans mes souvenirs, on a vraiment ce petit faisceau de lumière où on voit pas grand chose de moins en moins sur la fin des égouts, et il y a ce moment où on se retrouve dans l'église et pour découvrir que malheureusement effectivement le prêtre a été assassiné. Bon, on spoil allègrement, mais bon, on va se dire qu'il y a prescription, et ça vous entachera en rien, je pense que Nalexa confirmera le plaisir de faire le jeu, et où là on peut avoir peut-être moi qui là aussi analyse de trop, mais peut-être plus une couleur peut-être pas sacrée, mais en tout cas proche du lieu où on est, de la musique qu'on retrouve, qui au début a un effet calmant et qui là aussi, d'une certaine manière, accompagne, on va dire, la mort du personnage.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait un effet. Ouais, c'est sacré. Enfin, déjà, il y a le lieu et c'est tout l'ensemble, en fin de compte, qui donne cette touche-là. Et c'est vrai que ça. Bah, déjà, ouais, je pense que aussi, ça m'est revenu en mémoire parce que, comme tu disais, elle dénote vachement avec le passage dans les égouts où là, on est en train de découvrir le jeu avec tous ces monstres, tous ces trucs, on n'a pas de visibilité. Et on rentre dans cette église où on est au calme, tranquille, et ça permet. C'est comme je disais, c'est un lieu égale une sonorité, et on est vraiment en plein dedans dès le début du jeu.
Donc on aura fait un petit panorama non négligeable des musiques avec Nalexa de Zelda Link to the Past. Donc on espère que ça vous donnera envie d'y rejeter une oreille, ou voire de vous lancer dans le jeu, parce qu'il y a vraiment, effectivement, même si c'est une évidence quand on fait un jeu vidéo, c'est l'intrication de l'ensemble qui en fait toute sa saveur. Et bien on va marquer une dernière pause, comme d'habitude, avant de se retrouver avec notre invité. Et savoir justement ce qu'elle nous réserve pour les derniers mots, cette espèce de débriefing, on va dire, de l'émission. Dernière partie de cette émission en compagnie d'Alexa. On renvoie vers l'analyse qu'avaient fait les amis de Afterbeat. Si vous tapez Afterbeat et Link Between Two Worlds, qui est un petit peu la suite spirituelle ou l'hommage, on va dire, à Zelda, donc qui est ce jeu sorti sur 3DS, où ils font vraiment un pont sur les différents morceaux, et notamment où ils analysent Dark World, ancienne et nouvelle version. Donc je vais redonner la parole à Nalexa pour savoir, alors, si tu souhaitais peut-être prolonger ce qui a été dit tout au long de l'émission, ou s'il y avait quelque chose de ton actualité dont tu souhaitais parler, ou un thème autour du jeu vidéo qui te tient à cœur. C'est l'instant tribune libre, donc n'hésite pas.
Comme on était sur Link to the Past, tu l'as évoqué, je pensais peut-être parler de Link Between Worlds.
Ah.
Parce que bon, voilà quoi, j'y ai joué et puis c'était tellement bien, même s'il était un peu trop facile avec cette nouvelle gestion d'objets pourris. Voilà, non, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué à Link to the Past. J'avoue que j'ai toujours une appréhension à rejouer à des anciens jeux parce qu'il y a toujours, comme je dis, il y a le souvenir. Et des fois, quand on y rejoue, on peut être déçu. Enfin, j'ai déjà joué plusieurs fois à Link to the Past, mais là, ça fait un moment que je n'y ai pas touché. Et je ne voulais surtout pas y rejouer juste avant de jouer à Link Between Worlds pour éviter de trop comparer. Mais c'est vrai que cette nouvelle version de Zelda, enfin, surtout du même monde, là, on est pareil, on est dans le même système, on est sur la même map, mais avec des différences. Donc automatiquement, ça change les choses, avec aussi cette gestion 2D... de ce nouveau pouvoir, de pouvoir se coller au mur, ça ouvre aussi, c'est l'équivalent de la téléportation, mais pas tout à fait pareil et avec de nouvelles perspectives. Et c'est vrai qu'il y avait des moments dans le jeu où on se disait « Ah oui, bah c'était là que j'essayais à chaque fois de me téléporter. Je refais la même chose avec ce coup de « je me colle au mur » pour voir ce que ça fait au bout de 5 minutes. » Mais voilà, donc c'est, enfin, ce jeu, c'est, il m'a fait vraiment remonter à la surface tout ce que j'adorais dans Link to the Past. Que ça soit, bah, comme tu disais aussi, les musiques, toutes les musiques remasterisées, elles sont tellement magnifiques. Et pourtant, au début du jeu, quand il avait été annoncé, j'étais pas si emballée que ça par le design. Je me dis, mais pourquoi ils ont changé ? Enfin, toujours, voilà, la réaction de base, il faut que rien ne change, mais il faut que ça change. Et au final, en y jouant, j'ai trouvé tellement ça mignon, la façon dont ils avaient tout, tout redessiné, avec le nouveau Link à la façon Wind Waker. Maintenant, dès que c'est dessin animé, c'est côté Wind Waker, enfin, entre guillemets, hein, c'est pas non plus tout à fait Wind Waker. Mais voilà, c'est un jeu vraiment que j'ai adoré, que c'est tout à faire monter, enfin, toutes les musiques, justement, là, le côté musical à faire monter les souvenirs de Link to the Past, ça marchait super bien pour moi. Et je pense que pour les gens qui connaissent pas Zelda, ça peut être aussi un bon point d'entrée pour éviter de repasser par des vieux Zelda qui pourraient avoir un côté justement assez ancien et un côté plus aride entre guillemets, parce que c'est Zelda, hein, c'est pas non plus la difficulté absolue. Et donc voilà, donc c'est juste pour mentionner au moins Link Between Worlds, qui est vraiment super.
D'accord, bah c'est un pont parfait comme justement comme le sous-titre du jeu. Sinon, comme tu le rappelais en début d'émission, vu que ce sera ce lien entre les mondes sera ton mot de la fin, savoir où on peut te retrouver, soit sur les réseaux sociaux du net, sur ton site, ou si, comme je te disais, si tu avais un dernier message au monde vidéoludique à faire passer, voilà, ce sera un petit peu la conclusion de l'émission.
Alors bon, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous pouvez me retrouver à @nalexa. Et sinon, juste pour finir, Splatoon, c'est génial.
Peut-être juste rappeler ton site.
Alors Kerskam, K-E-R-S-K-A-M. Voilà.
.com. D'accord. Et je ne peux qu'abonder en .fr. Pardon. Autant Kerskam.fr. Je ne peux qu'abonder en ton sens pour Splatoon, vu l'inspiration en plus graphique. Alors, je ne sais pas si tu as vu passer toutes les illustrations que ça inspire aux fans. C'est effectivement une merveille. Et bah très bien. On se quitte sur ces hommages finalement très colorés, parce que Link Between Worlds et Splatoon, ça transpire la couleur dans ces jeux mainstream assez mornes finalement. Merci à toi Nalexa en tout cas, et puis au plaisir de te retrouver peut-être pour une prochaine émission.
Ouais, bah merci beaucoup Mehdi, c'était super sympa.
Ravi. Et bah, rendez-vous pour le prochain numéro donc de Mind the Game. En attendant, bah, portez-vous bien et à plus. Retrouvez Mind the Game et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, D-E-E-Z podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.